Suspense en Grande-Bretagne. Le 70e anniversaire de l'OTAN allait-il tourner au fiasco? Emmanuel Macron y était attendu au tournant depuis ses déclarations sur l'état de mort cérébrale de l'Alliance Atlantique.
Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. Qui est notre ennemi? Comment on agit ensemble contre le terrorisme, international en particulier?
En voulant donner un coup de fouet à l'OTAN, Emmanuel Macron a exposé au grand jour les divergences entre alliés. À l'image de cette passe d'armes avec Donald Trump autour de la question des combattants européens de l'État islamique.
Voulez-vous de beaux combattants de l'État islamique? Je peux vous les donner. Vous pouvez prendre tous ceux que vous voulez.
Soyez sérieux. Le problème numéro un, ce n'est pas les combattants étrangers, mais les combattants de Daesh, toujours actifs sur place.
Voilà pourquoi c'est un formidable responsable politique. C'est la meilleure non-réponse que je n'ai jamais entendue.
À l'issue du sommet, l'OTAN respire encore. Ses 29 membres ont adopté une déclaration commune qui réaffirme l'esprit de solidarité, d'unité et de cohésion qui les unit, tout en ouvrant la voie à une réflexion sur la stratégie de l'Alliance Atlantique.
L'OTAN reste l'unique endroit où l'Europe et l'Amérique du Nord discutent, décident et agissent tous les jours ensemble. Tous les dirigeants ont été clairs. Nous restons ensemble. Un pour tous et tous pour un.
Alors l'OTAN, fondée en 1949, vit-elle une crise passagère ou existentielle? Quel ennemi commun et quelle stratégie commune pour des alliés divisés? L'Europe peut-elle sortir de sa dépendance militaire aux États-Unis?
La première du débat.
Voilà, c'est donc la question suivante. Un téléspectateur qui demande comment peut-on se dire allié et se parler aussi mal, Alexandra de Hubschefer. C'est un euphémisme. Il y a beaucoup de tensions entre Trump, Macron, Erdogan. Qu'est-ce que ça dit de la nature de la relation, cette brutalité dans le langage? Est-ce que c'est si nouveau et qu'est-ce que ça dit?
Alors, c'est quand même nouveau dans la diplomatie, ce langage qui est peu diplomatique, ouais. Finalement. En même temps, et c'est un peu la tradition française, si on pense à la politique française, d'être ami, allié, mais pas forcément alignés, avec notamment la politique américaine ou d'autres alliés d'ailleurs avec lesquels on n'a pas forcément des accords et avec lesquels on ne partage pas forcément la même vision des priorités stratégiques. Et c'est ça qui divise aujourd'hui l'Alliance et qui l'a toujours en quelque sorte divisé, mais qui ressort aujourd'hui de manière flagrante, notamment entre ceux qui estiment que l'ennemi d'aujourd'hui et de l'OTAN, c'est la Russie, et puis les autres qui ont un ancrage un peu plus dans le sud et des priorités qui sont la lutte contre le terrorisme. Après, l'enjeu de l'OTAN. Et pourquoi l'OTAN a survécu 70 ans, c'est qu'elle a réussi, malgré ses différentes perceptions des menaces, à garder une certaine cohésion politique qui aujourd'hui se trouve peut-être plus fragilisée qu'avant.
Trop fragilisée, Général Desportes ?
L'OTAN aujourd'hui, bien sûr. L'OTAN n'est plus crédible en tant que système de défense. Tant qu'elle sera organisée avec un protecteur majeur et un peu méprisant des autres, et puis des nations qui essayent de vivre à côté. L'OTAN n'est pas morte si on arrive à créer un pilier européen qui préserve et qui permette l'autonomie européenne en termes politiques, en termes capacitaires, en termes opérationnels. Le problème n'est pas tant un problème de l'OTAN que d'organisation de l'OTAN et que d'équilibre à l'intérieur.
D'accord. Alors, qui est protégé par l'OTAN? C'est le chiffre du jour.
Exactement, 1 milliard. C'est le chiffre mis en avant par le secrétaire général de l'OTAN pour prouver la force de l'organisation. Donc selon Jens Stoltenberg, l'OTAN protège chaque jour 1 milliard de personnes que sont les habitants des pays membres. Pierre Grosseur, s'il n'y avait pas l'OTAN, est-ce que ce milliard de personnes serait moins en sécurité?
Ah, ça c'est une grande question, c'est-à-dire qu'on fait du contrefactuel. C'est la question qu'on se posait déjà à l'issue de la guerre froide, c'est-à-dire est-ce que c'est l'OTAN qui a gagné la guerre froide? S'il n'y avait pas eu d'OTAN, est-ce que les soviétiques auraient attaqué, etc. On ne peut pas refaire l'histoire de ce type-là, c'est extrêmement compliqué. On ne sait pas exactement ce que pensent les États et les dirigeants des États qui pourraient grignoter aux marges de l'Europe, parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'imaginer une grande invasion d'une armée extérieure, mais en tout cas, ça a rassuré beaucoup de monde. Il faut bien voir que quand le traité de l'Atlantique Nord a été signé le 4 avril 1949, l'objectif n'était pas de faire une organisation militaire intégrée. L'objectif était de rassurer. Il faut bien voir qu'on sortait de deux guerres, de deux invasions allemandes. Et donc, ce qu'on voulait, c'était être rassuré. On avait demandé cette...
Rassuré par rapport à la Russie.
Et à l'URSS. Vis-à-vis de l'Allemagne. Et vis-à-vis jamais oublier ça quand même, vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc, effectivement, en 1949, on se souvenait qu'en 1919, les Américains ne nous avaient pas protégés pendant 20 ans. Et donc, l'idée d'avoir un lien et d'avoir les Américains en Europe a été considérée comme quelque chose d'important. Et donc, cette réassurance psychologique, c'est extrêmement difficile de mesurer ce qu'elle veut dire. Par exemple, un des éléments essentiels, c'est par exemple entre Grecs et Turcs, il y a des tensions assez anciennes. Est-ce que le fait que les deux soient dans l'OTAN depuis 1952 a empêché qu'il y ait une guerre entre les deux? C'est des questions, on ne pourra jamais donner une réponse totale là-dessus.
Alexandra de Hubschefer, si on devait dire quel est le membre qui pose le plus de problèmes aujourd'hui dans l'OTAN, ce serait qui? Ce serait le parrain américain, comme disait Elisabeth? Ce serait la France? Ce serait les Turcs
Alors, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on mette finalement le président français dans le même panier qu'Erdogan et Trump.
D'accord.
Je trouve ça totalement en décalage par rapport, justement, pour répondre à votre question, aux deux grands disrupteurs aujourd'hui de l'Alliance Atlantique,
que sont effectivement
les États-Unis, incarnés par le président Trump. C'est pas Macron qui a dit que l'OTAN était obsolète, c'est bien le président Trump. Et puis, de l'autre côté, Erdogan, qui commence déjà à tester des batteries de missiles russes, les fameux S-400, qui s'autonomise et qui s'oppose de plus en plus, finalement, au camp occidental, hein, qui commence à se rapprocher de la Russie, etc. Donc il y a ces deux éléments quand même qui sont les deux puissances qui pèsent le plus militairement au sein de l'Alliance, qui posent un problème. Mais il y a aussi un autre pays qui pose problème, c'est la capitale, c'est Londres, hein, où a lieu cette réunion de l'OTAN. Il y a un problème de leadership anglo-saxon. N'oublions pas que c'est effectivement, d'un point de vue historique, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont vraiment été les deux piliers de cette alliance atlantique, hein, dès le départ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit le Brexit d'un côté, et puis de l'autre, un Trump qui remet en cause, on le voit quand même à travers même cette réunion aujourd'hui, l'utilité de cette alliance. Alors qu'à mon avis, les États-Unis continueront à avoir besoin de cette alliance, notamment dans la compétition avec la Chine. Donc, dire que là, l'OTAN va mourir ou qu'elle ne sert plus à rien, pour moi, me paraît totalement en décalage par rapport aux besoins américains vis-à-vis de cette alliance.
C'est ce que dit Emmanuel Macron quand il parle de mort cérébrale. Il ne dit pas autre chose que ce que dit Trump en des termes juste plus...
Général Desportes, c'est pour créer un électrochoc?
Non, mais je crois que c'est ça. Moi, je crois que le président Macron a profondément raison. C'est-à-dire que le corps fonctionne bien, même on lui paye des habits formidables. On lui a acheté récemment un nouvel état-major à un milliard d'euros. Donc ça marche bien, on fait des réunions, etc. Mais on a à la tête un problème de solidarité qui a été énoncé. On a un problème de leadership. Les membres de l'OTAN ne sont plus régulés. Et donc, je crois que ce qu'a voulu créer le président Macron, et il a parfaitement réussi, on est là sur tous les plateaux, on en parle, etc., c'est qu'enfin, on commence à se poser des vraies questions. Parce que pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, moi, je crois que nous sommes de moins en moins protégés par l'OTAN et que l'OTAN est de plus en plus une illusion. Et donc, si le président Macron part ses propos un peu raides, a fait en sorte qu'on reconstruise une vraie défense, eh bien, c'est bien. Et cette défense des Européens ne se fera que par une prise de conscience des Européens de l'autonomie qu'ils doivent avoir. Quel est le problème de l'OTAN aujourd'hui? C'est que pendant, jusqu'en 1989, le projet politique était clair et qu'aujourd'hui, il n'est pas clair. Les trois révisions stratégiques de l'OTAN ont débouché sur une posture qui ne convient pas à tout le monde. Il n'y a plus d'unité. Donc il faut arriver à la reconstituer. Mais il faut pour ça que l'Europe pèse, que l'Europe... Les querelles américaines ne sont pas forcément les querelles européennes. L'avenir de l'Amérique n'est pas l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe, c'est l'avenir eurasiatique. Il n'est plus euratlantique pour un certain nombre de raisons. Nous devons rester alliés, mais nous devons rester alliés à un niveau d'égalité et non pas avec un protecteur et des vassaux assujettis.
Alors faites-nous écouter le président russe.
Exactement, Vladimir Poutine qui s'exprimait hier, donc à la veille du sommet.
Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre volonté de coopérer avec l'OTAN sur des menaces réelles comme le terrorisme international, les conflits armés locaux et le danger de la prolifération des armes de destruction massive. Plusieurs manifestations conjointes ont eu lieu, mais notre coopération s'est de fait terminée après 2008, parce que l'Alliance a agi d'une manière incorrecte, voire brutale, à l'égard de la Russie, sans tenir compte des intérêts de notre pays.
Oui, Pierre Grosser, le général parlait d'unité à l'instant. Avant, l'unité, elle était créée par l'ennemi commun, entre guillemets. Là, est-ce qu'on a encore des ennemis communs?
Le problème, c'est que la nature de l'alliance a changé à partir de 1989-90. C'est ce qu'on a appelé essentiellement une communauté de sécurité, ce qui n'est pas la même chose qu'une alliance face à un ennemi. Donc on peut contester cette notion-là. Mais cette idée de communauté de sécurité, ça veut dire qu'on a des valeurs relativement similaires et qu'on essaie de les protéger face à des problèmes qui sont des problèmes majeurs. Aujourd'hui, dans la déclaration finale, on parle du terrorisme. Le terrorisme n'est pas un ennemi. Je veux dire, il peut y avoir des groupes qui sont des ennemis et qui le disent, mais le terrorisme en tant que tel n'est pas un ennemi.
Donc, Vladimir Poutine aussi a évoqué le terrorisme comme
son ennemi.
Tout à fait.
On sait très bien qu'entre Macron et Poutine, c'est un des éléments de convergence. Donc, si vous voulez, la grande question sur justement cette protection américaine, c'est qu'on peut tout à fait, en tant que Français, avoir cette vision du pilier européen, et on l'avance depuis un certain nombre d'années, mais le problème, ce sont l'essentiel de nos partenaires. C'est-à-dire que vous avez quand même un certain nombre de pays dans l'OTAN, qui ne sont pas tous membres de l'Union européenne, mais dont la plupart sont membres de l'Union européenne, qui sont très contents de la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas trop, ils sont protégés, ils ont une espèce de garantie. Et de toute façon, les questions de sécurité, les questions stratégiques, etc., ça ne leur pose pas de grands problèmes. Tout le débat, en fait, me semble-t-il, autour de l'OTAN, il est sur cette notion, et de la défense européenne, autour de la notion de culture stratégique. Et donc, vous avez des pays qui ont des cultures stratégiques et des rapports, justement, à l'utilisation de la force, à la définition des menaces, qui sont très, très différents.
Quel pays, pourquoi ?
Par exemple, entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, quand même, depuis très, très longtemps, se trouve avec moins d'1,5% du PNB dans la défense. Et encore, c'est très, très difficile d'arriver à voter ça, finalement, dans une position assez confortable. Et on sait quand même que dans les attaques de Trump, pendant toute l'année 2018, c'était plutôt sur Mme Merkel, parce que Mme Merkel, d'un autre côté, voilà, il y a le Nord Stream 2, c'est-à-dire des liens économiques et commerciaux avec la Russie. Donc, voilà, c'est-à-dire toute cette idée qu'en fait, Trump avait développée dès la fin des années 80 pour le Japon, parce que les problématiques européennes et asiatiques sont les mêmes avec le Japon et la Corée du Sud. C'est l'idée que finalement, c'est des pays qui se font protéger, qui s'endorment tranquillement et qui, pendant ce temps, ont des réussites commerciales et ont des bénéfices commerciaux avec les États-Unis. Et c'est ça qui agace profondément les États-Unis. Et dans un certain sens, ils n'ont pas tort.
Alors, on va s'intéresser. Merci Thibault Nolte. Anne.
Oui, général Desportes, donc l'Estonie, elle y croit encore à l'OTAN ?
Alors, écoutez, je pense qu'elle y croit un peu, mais qu'elle y croit un peu moins. Elle y croit un peu moins. La preuve, c'est qu'elle a décidé de rejoindre l'initiative européenne d'intervention qui a été lancée par le président Macron à juste titre en 2017. Et elle se dit bien, voyons cette affaire-là. Et pour répondre un peu à M. Grosser, c'est vrai que ces pays-là sont contents de la situation. Et c'est pour ça que je crois que l'OTAN est un vaste marchand de sable. Je vends du sable, dormez, braves gens, et moi, je vous vends...
Et des armes.
Et je vous vends des armes. Je vous vends des armes. Je vous vends des armes. Acceptez le parapluie américain, achetez mes armes, nous vous protégeons. Or, je pense que ça a été vrai et ça l'est juste de moins en moins. Je vous rappelle que quelqu'un de particulièrement intelligent s'en est rendu compte dès 1958 et c'était le général de Gaulle. Et il n'avait pas encore entendu le président Trump disant qu'il n'irait pas faire tuer ses soldats pour la défense de la capitale du Monténégro ou pour même les pays baltes. Donc il avait senti cette affaire-là. Cette dérive des États-Unis vers le Pacifique est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire du monde. Et quand le dernier soldat américain aura quitté Anvers pour le port de Baltimore, nous allons nous retrouver seuls. Et là, nous aurons besoin d'avoir bâti notre défense. Donc l'OTAN, encore un peu, de moins en moins, il nous reste très peu de temps pour bâtir cette autonomie de défense qui est absolument fondamentale pour la sécurité des Français, de la France, de nos pays et de nos valeurs.
Non, ce qui est intéressant avec l'Estonie, c'est la relation que la France a avec l'Estonie sur le plan géopolitique, militaire et stratégique. La relation franco-estonienne, en quelque sorte, cristallise ce partage du fardeau et cette solidarité à l'intérieur de l'Alliance. Puisque nous, la France, on a renforcé, et ça c'est souvent oublié, notre engagement à l'Est, en Estonie, dans les pays baltes, dans une politique de dissuasion face à la Russie. Et puis inversement, l'Estonie est à nos côtés avec une cinquantaine de militaires, ce qui n'est pas négligeable pour un petit pays, dans la lutte contre le terrorisme, dans le